Nous allons commencer une nouvelle étape dans notre parcours. Après avoir vu le but, après avoir essayé de montrer ce que pouvait signifier aimer l'autre en Dieu, après avoir montré l'importance de la connaissance de Dieu qui me permet d'entrer dans un nouveau regard et un nouvel amour pour l'autre, après avoir montré donc le primat de la relation à Dieu dans ce sens-là, nous allons essayer maintenant de montrer davantage le chemin concret qui peut permettre un renouvellement de cet amour entre l'homme et la femme. Pendant la journée du samedi, nous avons insisté sur le primat du cœur. Et je sais que c'est pas facile de saisir cette distinction qui est omniprésente dans l'Écriture entre le cœur et l'âme. Mais les choses se font progressivement. On arrive à saisir cette réalité insaisissable par la raison, à la saisir avec le cœur. On peut comprendre cette réalité du cœur qu'avec les yeux du cœur. Mais nous sommes en chemin. Et nous allons aujourd'hui être amenés à nouveau à considérer cette réalité du cœur en essayant donc d'aller plus en profondeur dans la compréhension de ce qui peut faire obstacle à l'amour véritable en nous. Cet enseignement ne va pas être facile parce que nous allons essayer de mettre en lumière une réalité cachée qui s'appelle le péché originel. Le péché originel en tant qu'il est à la source des autres péchés. Nous allons essayer de mettre en évidence, on peut dire, la racine du mal en nous, de ce qui nous empêche donc de vivre comme nous en avons tous le désir, c'est-à-dire de vivre un amour qui soit sincère, pur, total. Avant de mettre en lumière la réalité du péché originel, ses conséquences sur chacun de nous, je reviens sur cette question de l'amour pur, de l'amour véritable. L'homme est fait pour se donner totalement à l'image de Dieu, qui lui-même se donne, vit une vie de don total. Le Père se donne totalement au Fils. Le Fils se redonne totalement au Père. Nous sommes créés à l'image de Dieu pour aimer jusqu'à l'extase, c'est-à-dire jusqu'à une sortie totale de nous-mêmes. Mais cette vie d'amour que tout homme recherche confusément, cette vie d'amour ne peut être en définitive que la réponse à un amour premier, qui est celui de Dieu, qui seul peut nous toucher, toucher notre cœur, à une profondeur qui fait que nous devenons donc en nous laissant toucher par Dieu, nous devenons capables de sortir de nous-mêmes, tout simplement parce que Dieu et Dieu seul peut être aimé plus que nous-mêmes. C'est le contact avec un amour infini qui me permet de sortir de moi-même pour me donner totalement à un autre que moi-même, aimer plus que moi-même. Ici, j'énonce un principe fondamental, c'est que nous ne pouvons aimer d'un amour véritable, donc en nous donnant totalement, que si nous savons d'abord nous laisser aimer. Il y a un laisser-aimer, une passivité, un accueil qui devra toujours précéder l'amour en tant que don de soi. Dire que l'amour en nous, véritable, comme don de nous-mêmes, n'est peut-être que comme une réponse. Ça veut dire aussi qu'il est vain, voyez, de vouloir chercher l'amour dans une tension intérieure, dans un vouloir aimer, en mobilisant toute notre énergie, toute notre volonté. Mais à partir du moment où je suis dans cette tension, non seulement je suis dans une impasse, puisque je ne vis pas le premier moment de l'amour véritable, qui est l'accueil de l'amour de l'autre, de cet autre qui est Dieu, mais je risque même de faire obstacle à cet accueil, dans la mesure où je reste crispé dans un vouloir aimer, qui en réalité m'empêche de me laisser aimer. Ici, ce que nous recherchons, c'est à sortir de ces impasses qui font de notre vie chrétienne une recherche désespérée de perfection et qui nous empêche de trouver, la porte d'entrée de cet amour véritable pour lequel nous avons été créés. Le véritable don de soi, il n'est pas dans une générosité folle, il n'est pas dans un sacrifice de moi-même pour l'autre. Le véritable don de soi, il est d'abord dans une ouverture de mon cœur à l'autre. C'est précisément cette ouverture de cœur qui peut se réaliser que si quelqu'un vient frapper à la porte de mon cœur. J'ouvre mon cœur parce que il y a une présence aimante qui est là et qui, en même temps qu'elle se révèle à moi, m'amène à m'ouvrir à un autre que moi-même. Et cette présence aimante dont j'ai besoin pour ouvrir mon cœur, bien, ça ne peut être que celle de Dieu qui vient au-devant de moi et qui m'appelle à lui pour que je puisse sortir d'une vie centrée sur moi-même. Essayons de préciser qu'est-ce que ça signifie, le fait que je dois passer par cette ouverture de cœur pour réellement m'ouvrir à l'autre. Cette ouverture de cœur, elle se vit d'abord dans la relation à Dieu. Ça veut dire concrètement que l'amour est lié à la foi et à l'espérance. Qu'est-ce que la foi ? C'est la première ouverture de mon cœur, précisément à Dieu qui se révèle. La première chose dont j'ai besoin pour me laisser toucher par l'amour divin et pour répondre à l'amour par l'amour, c'est d'abord d'adhérer à cette révélation, de faire confiance. Ici, je repense à la petite Thérèse qui disait « C'est la confiance, rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. » Cette première ouverture de cœur, elle est comme naturelle chez le tout petit fait naturellement confiance. Mais nous, nous avons perdu cette confiance naturelle, nous avons besoin d'une confiance surnaturelle qui s'appelle la foi. Et c'est cette confiance donc qui va être la base de l'édifice. La foi, c'est la base de tout. Quand nous nous sentons vides, quand nous ne savons plus comment avancer, il faut revenir à des actes de confiance, à des actes de foi. Et cet acte de foi, qui est donc la première manière dont je peux ouvrir mon cœur à Dieu qui s'offre à moi, en se révélant à moi, cet acte de foi se prolonge dans l'espérance, qui me fait désirer répondre à l'amour de Dieu. Ce que je vous dis là, ça ne se vit pas nécessairement d'une manière toujours consciente. Il y a des personnes qui ont le cœur ouvert à Dieu sans le savoir. Il y a des personnes qui se laissent toucher par l'amour divin sans le savoir. Il y a des personnes qui répondent à cet appel intérieur, plus intime d'elles-mêmes, qui s'ouvrent, sans bien comprendre que cet appel, c'est celui de Dieu. Quand on peut avoir une foi explicite, on l'exerce, mais dans le monde, il y a quantité de personnes qui cheminent comme ça vers l'amour véritable, en étant attirées par Dieu, en se laissant chaque jour davantage plus profondément toucher par Dieu. Comme il y a aussi des chrétiens qui ont une foi intellectuelle et qui ne savent pas se laisser toucher dans leur cœur. Les choses ne sont pas, séparation entre ceux qui auraient la chance d'avoir la foi et l'espérance, sont des dispositions intimes qui se vivent et peuvent se vivre d'une manière, non consciente, mais que nous, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à cultiver. Donc, l'amour, c'est le fruit d'un chemin. L'amour, c'est pas quelque chose que je peux faire moi-même, que je peux fabriquer, que je peux produire. C'est quelque chose que je reçois, moyennant un travail, qui est un travail d'ouverture à l'amour premier, à quelque chose qui est, que je ne crée pas, qui est cette présence aimante divine, à laquelle donc je peux m'ouvrir chaque jour davantage pour laisser l'amour naître en moi. Aimer, ça signifie d'abord pour nous désirer humblement aimer. Aimer, c'est pas vouloir aimer, mais c'est désirer aimer. Si vous comprenez la différence, vous comprenez ce que c'est que l'espérance. L'espérance est un désir humble de cet amour véritable. L'espérance me préserve d'une tension inutile, d'un vouloir à tout prix aimer les autres d'un amour pur, désintéressé, alors que ce n'est pas possible humainement. L'espérance me dispose à recevoir. Saint Jean de la Croix dit que l'âme reçoit pour autant qu'elle espère. Voyez, si simplement pendant cette soirée, nous passions tous davantage d'un vouloir aimer à un désirer humblement aimer, ce serait une immense victoire. Accepter notre impuissance à aimer nous-mêmes et recevoir constamment l'amour comme un don de Dieu et savoir nous disposer intérieurement à le recevoir, on peut dire que c'est le premier enseignement que Jésus nous donne dans l'Évangile. En nous apprenant à accueillir le royaume de Dieu comme un don et à préparer notre cœur à le recevoir comme des petits, des pauvres, en nous laissant donc conduire par lui sur ce chemin de la confiance, de l'humilité, de l'espérance.
J'ai été dans le perfectionnisme, c'est-à-dire que je pensais vraiment que c'était que l'amour était le fruit de mes efforts. Et donc ça a été, je vois avec le recul, pendant que j'étais comme ça, je ne m'en rendais pas compte. Et je vois avec le recul toutes les erreurs que ça peut provoquer au niveau de l'éducation des enfants, au niveau du couple, au niveau... Bon, maintenant, avec le recul, je vois pendant que je faisais... c'est difficile, hein, Louis, de témoigner là-dessus, parce que je ne sais pas comment... je trouve que c'est... Comme je n'en avais pas conscience... Eh bien voilà, j'y allais, j'avançais, je me dis, même avec le recul, je me dis, c'est sans doute pour ça que j'ai eu tant d'enfants, c'est que je voulais mériter l'amour de Dieu, sans doute. Je me dis des choses comme ça après coup, et je me dis, heureusement finalement que j'ai été perfectionniste, parce que maintenant je suis super contente d'avoir mes enfants. Mais ça a orienté ma vie dans un sens très volontariste, très... Et de maintenant de se rééduquer dans l'autre sens après avoir fait une bonne chute et s'être rendu compte qu'avec en faisant tous ces efforts-là, je n'y arrivais pas. Eh bien, la rééducation de ce que Louis expliquait tout de suite, d'apprendre maintenant à recevoir, à laisser faire, je suis sans arrêt à me poser la question. Jusqu'à quel point je dois laisser faire, jusqu'à quel point il faut faire des efforts. J'espère que Louis va nous expliquer un peu, parce que recevoir de Dieu, je me disais, bon, moi je me disais avant, il faut aller à la messe, il faut prier, il faut faire ci, il faut faire ça. J'avais des choses comme ça que je m'obligeais à faire, et finalement, si j'avais vraiment réussi, au bout du compte, j'aurais été contente de moi, et puis ça m'aurait enfermé dans un orgueil, enfin quelque chose de pas juste, enfin où il n'y avait pas vraiment de l'amour. Et maintenant, se dire, il faut recevoir cet amour, l'accueillir, et puis en même temps, quels sont les efforts dans l'éducation des enfants, comment construire des hommes pour qu'ils aient une colonne vertébrale et ne pas laisser tout faire. Donc je suis maintenant obligée de réfléchir tout et de me dire, bon, faut que j'exige parce qu'il faut qu'il ait une colonne vertébrale, il faut qu'il apprenne à se lever le matin, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse cela, il y a des choses à faire. Et en même temps, sur le plan chrétien, dans l'autre sens, il faut recevoir. Donc, pour moi, c'est un exercice permanent d'équilibriste que.
Oui, la volonté, elle est utile quant au faire. Les actes qu'on a imposés. Mais l'amour ne se confond pas avec les actes. là où ça devient piégeant, la volonté, c'est quand on confond le vouloir aimer et l'amour. Mais qu'on ait des efforts de volonté à faire dans les œuvres que l'on fait pour les autres, c'est évident. Mais on se rend compte au bout d'un certain temps que si on ne sait pas, nourrir l'amour lui-même, le fortifier en revenant à une attitude qui à la base est passive, d'accueil, de réceptivité, un réveil de la foi, de notre espérance en Dieu, dans ce don gratuit qu'il nous fait de son amour divin, eh bien il y a un moment où on s'épuise. Moi, j'ai confondu à fond, jeune prêtre, l'amour et la générosité. Parce que j'étais dans une telle tension à vouloir aimer, notamment ces plus pauvres qu'étaient les sidéens, parce que j'étais aumônier dans un centre d'accueil pour les gens atteints du sida, que quand on met l'amour, l'absolu finalement, qu'on confond ça avec la générosité, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus qu'à perdre sa vie en dépassant les capacités qu'on a. Et de fait, je les ai dépassées. Mais j'ai retenu de ce premier temps de ma vie le fait que il y a un moment ou un autre, si on ne se laisse pas d'abord aimer, ben on craque. La difficulté pour nous à nous laisser d'abord aimer et toucher par l'amour premier de Dieu avant que de vouloir aimer l'autre, elle a des racines profondes. C'est pas simplement qu'on comprend pas bien ce qu'est l'amour ou qu'on a une vision trop volontariste des choses. La difficulté qu'on a à accueillir, à recevoir, avant que de vouloir donner, je dis, elle a des racines profondes qui sont précisément le péché originel. Et c'est ce que nous voudrions voir ce soir, en fait, cette réalité du péché originel. Comment nous avons fait pour perdre notre cœur d'enfant, pour perdre cette capacité à se laisser à se laisser faire, à se laisser aimer. Bien, l'homme a été tenté dès l'origine sur ce terrain de la confiance. Le démon a su semer le doute sur Dieu, qui fait que l'homme est tombé dans l'orgueil spirituel, c'est-à-dire la prétention à l'autonomie, la prétention à se réaliser lui-même par lui-même. Mais voyez, la prétention à se réaliser soi-même par soi-même sans Dieu, ça peut être la prétention à aimer soi-même par soi-même sans Dieu. Et on peut vivre ça inconsciemment tout en étant chrétien. En même temps qu'il est tombé dans ce piège d'une fausse autonomie par rapport à l'amour divin, l'homme est tombé dans un piège, qui est le piège le plus terrible, c'est-à-dire qu'en définitive, au lieu de chercher sa joie dans l'union à Dieu, et dans l'union aux autres, en réalité, il s'est mis à chercher sa joie en lui-même. Vous serez comme des dieux, ça veut dire réalisez-vous vous-même pour vous-même. À ce moment-là, tout peut être perverti. À partir du moment où l'homme se regarde lui-même comme le but, finalement, c'est sa propre perfection qui devient le but. Au lieu de trouver sa vie dans la relation à l'autre, en définitive, ce qu'il recherche, c'est un idéal de soi. L'orgueil qui nous contamine tous, en définitive, l'orgueil, c'est la recherche de soi, d'une exaltation de soi par soi, mais dans lequel on est privé du vrai but de l'amour et de la vie, qui est Dieu et l'autre. Encore une fois, ce qui nous fait vivre vraiment, c'est quand nous sommes vraiment en relation avec l'autre, c'est quand on peut enfin se lâcher un peu soi-même et rentrer dans une vraie communion. À ce moment-là, il y a de la joie, il y a de la vie, il y a quelque chose qui passe, parce que nous ne sommes pas faits pour vivre centrés sur nous-mêmes, nous sommes faits pour vivre dans l'ouverture. Cette ouverture, c'est peut-être que l'ouverture de notre cœur. Mais c'est cette capacité d'ouverture à Dieu, d'ouverture à l'autre, qui a été abîmée dès l'origine. Comment cet refermement de l'homme sur lui-même, cet égocentrisme foncier, comment il se traduit si on suit le récit de la Genèse dans la relation entre l'homme et la femme? Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. On voit dans le récit de la Genèse qu'après la relation à Dieu, la première chose qui est abîmée, c'est la relation entre l'homme et la femme. On peut distinguer dans la lumière de la Genèse une double contamination, contamination par un esprit de domination, et une contamination par un esprit de possession. Ici, nous parlons de choses douloureuses, hein, parce que c'est notre combat à tous. Mais il ne faut pas non plus pas que vous... On va parler que du péché. Hein. On ne va pas parler de ce qui reste de bon en nous. Mais c'est évident que la nature humaine n'a pas été totalement corrompue, Dieu soit loué. Nous restons créés à l'image de Dieu. Mais nous essayons de voir ce qui contamine notre désir sincère d'aimer, naturel. Nous essayons de voir ce qui fait que nous n'arrivons pas à vivre un amour pur, désintéressé. Quel est le piège au niveau de l'esprit de domination? Comment je peux tomber dans cet désir inconscient de dominer? Mais toujours à partir du fait que je me recherche moi-même, je recherche une certaine image parfaite de moi-même, un idéal, et je le recherche aussi à travers donc l'image que l'autre me renvoie de moi-même. À ce moment-là, le désir d'être aimé devient le désir d'être exalté, d'être mis au-dessus des autres. On pourrait même dire, avons-le, le désir d'être adoré. Il y a des maris qui sont jaloux de la place que Dieu a dans le cœur de leur épouse. Il peut y avoir la réciprocité, hein, même si des femmes qui peuvent être jalouses, mais habituellement, on rencontre plutôt des hommes qui supportent mal de ne pas être le seul, le premier, de ne pas être celui qui fait le bonheur de l'autre, celui qui donne, celui qui comble. On ne se rend pas bien compte que dans cette recherche d'être celui qui aime le premier, qui fait le bonheur de l'autre, on ne se rend pas bien compte que dans tout cela, on risque de ne rechercher qu'une seule personne, soi-même. Quand on aime vraiment, quand on a le cœur ouvert, en fait, on est attiré par l'autre. Déjà, il y a un oubli de soi comme, qui vient spontanément, parce que c'est l'autre qui nous intéresse, la relation à l'autre, vraiment. Mais on pense même pas relation, on pense à la limite même pas amour. On est touché par l'autre, et on est attiré par l'autre, et on s'ouvre à l'autre. Quand on commence à vouloir être quelqu'un qui aime, ça se complique. Quand on commence à se donner une certaine perfection d'amour que l'on recherche en pensant que c'est ça aimer et qu'on attend que l'autre nous confirme qu'on est bien celui qui aime, c'est que quelque part l'amour a raté son but. L'amour, ce n'est pas un but en soi. L'amour, c'est un moyen d'union. Voyez, même le fait, voyez, d'un discours qui exalte l'amour pour l'amour est piégeant. Parce que l'amour, c'est une force unitive, ce qui me pousse vers l'autre. Et si j'oublie le but de l'amour, mais c'est tout simplement parce que je vis l'amour comme un idéal de moi-même, à ce moment-là, un amour qui ne tend pas vraiment à l'union à l'autre, mais qui devient sa propre fin, qu'on appelle ça la sainteté ou autre chose, mais la sainteté elle-même, je me souviendrai toujours quand j'avais dit cardinal que je voulais être, je désire la sainteté, il m'a dit c'est pas la sainteté qu'on désire, c'est Dieu. Bien vu. On pourrait dire aussi bien moi je désire l'amour, non c'est pas l'amour qu'on désire, c'est Dieu et l'autre. Communion. Donc je dis à partir du moment où l'amour est recherché à l'intérieur en fait d'une exaltation de soi, pour dire les choses simplement, bien, il rate sa cible qui est l'union, qui est l'autre, il se dénature forcément. Et l'autre le ressent. Il ressent bien qu'il n'est pas aimé pour lui-même. Il est là pour me confirmer que j'aime bien. Comment ça peut se traduire au niveau psychique? Là, évidemment, on touche les dispositions intimes du cœur de l'homme qui est blessé par le péché originel. Mais si on regarde au niveau psychique, comment ça va peut se traduire? Par le fait de... Excusez-moi l'expression, de jouer au sauveur. Bon. On connaît tous ce genre de... Comment dire? de jeu, personnage qu'on joue, le fait d'une générosité excessive, le fait aussi que finalement on oublie la présence à l'autre, on multiplie les œuvres pour les autres, on montre aux autres qu'on les aime, en fait on se montre à soi-même qu'on aime, on montre, on n'essaie pas de donner des preuves de son amour, mais on oublie que l'amour est d'abord union, communion, donc en fait on oublie l'autre, on oublie la présence à l'autre notamment.
J'ai fait un peu cette expérience-là il y a 2 ans, pendant les vacances. J'ai beaucoup de petits-enfants et mes enfants m'ont demandé tout un été de ne pas mettre les pieds dans la cuisine. Et moi, j'étais contente, je me suis dit, je sais que j'ai plus ni faire les courses, ni faire la cuisine, etc. Et je me suis rendu compte que, certes, ils me l'ont dit après, que certaines de mes filles m'en voulaient de tout faire bien, et qu'elle me disait, oui, bon, voilà, on ne fera jamais comme toi. J'étais prête à me défoncer pour qu'ils aient rien à faire dans l'été, qu'ils soient contents, etc. Et en même temps, je les écrasais complètement dans cette attitude. Et l'été où j'ai lâché prise, je n'ai pas mis les pieds dans la cuisine de l'été, je trouvais ça très sympa de leur part, en même temps, et un repos, et ben, j'ai vraiment vu la différence de relation, de qualité de relation que je pouvais avoir avec chacun, et ça a vraiment changé énormément les choses, et ça a été un bouleversement dans les mois qui ont suivi, hein. Il y a eu plein d'échanges de pardon, plein de... Ceci, je l'ai fait accompagné d'une thérapie, moi j'étais obligée de me faire un peu aider, et il y a eu beaucoup d'échanges de pardon, beaucoup de choses qui se remettaient en place, et c'est... Donc ça a été très douloureux pour moi de me rendre compte de ce perfectionnisme, mais ce qui est super, c'est après le passage de la douleur, de voir comment on retrouve des relations, mais complètement différentes. Encore pendant les vacances de Noël, j'ai eu des relations avec mes filles à parrainmoniale, complètement différentes de d'habitude. Et je me suis dit, mais c'est vraiment... Une qualité, une profondeur qui n'a plus rien à voir, quoi. Et aussi une vérité. Donc on parle de quelque chose de douloureux, de difficile, mais en même temps, c'est un chemin d'espérance extraordinaire. Je pense que tu es d'accord, Philippe.
D'extérieur, oui, c'est sûr que ça se voit, ça se vit, ça se sent, ça se perçoit, ça se... Et moi, j'ai envie de revenir sur, à travers ça, sur ce que disait Louis tout à l'heure, Père Louis tout à l'heure, sur finalement cette passivité qui précède toujours l'amour en tant que don de soi. C'est très curieux parce qu'en fait, effectivement, il y a une espèce de passivité, et puis effectivement, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Alors, on est dans cette espèce de tension, mais cette tension-là, elle est positive quand on a réalisé que la passivité, il fallait vraiment. Se débarrasser de toute cette volonté. Puis on est dans un monde, moi je réalise professionnellement, on est dans un monde qui est très orienté sur la performance, sur la compétence, enfin bon voilà, il faut faire les choses bien, etc. Donc, il faut être dans l'agir, quoi. Bon. Et donc on est très très imprégné par ça sans s'en rendre compte. Je pensais tout à l'heure en écoutant que, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le grand silence, mais le grand silence c'est ça, c'est cette espèce de passivité, hein, donc c'est moi qui... Chartreux, là, ce film sur les mots de Chartreux, et ce film qui dure 2h30, qui est dans le silence complet, on voit ces gens qui sont dans une passivité, et ça ne les empêche pas de porter des fruits extraordinaires sur le plan spirituel notamment.
Le difficile, c'est pas de se tuer à la tâche pour les autres en se regardant en train de mourir. Et en se complaisant dans cet état de victimal du héros, le difficile, c'est de réellement ouvrir son cœur à l'autre. C'est les choses les plus simples, hein. C'est cette ouverture qui fait que réellement je sors de moi-même. Le vrai don de soi, il est dans l'ouverture de soi à l'autre. cette ouverture de soi à l'autre, quand elle est réelle, elle n'est pas consciente. Puisque précisément, j'arrête de me regarder. C'est donné comme ça. On se rend bien compte que l'amour véritable, il naît, il peut naître que si j'arrête de vouloir le fabriquer. Et je redis que cette ouverture qui est c'est le miracle, hein, c'est que j'arrête de vivre centré sur moi, je trouve ma joie en un autre que moi. Un miracle de l'amour véritable. Bien, ça peut être donné que si je me laisse d'abord toucher, qui est un amour premier. Nous sommes créatures, nous sommes enfants, nous ne sommes pas Dieu. C'est Dieu qui est principe sans principe. C'est Dieu qui est source de l'amour pur. Et donc, le péché originel nous a détournés de cette logique fondamentale et nous a fait tomber tous dans toutes sortes de déviations qui sont liées au fait qu'on reste en fait à se rechercher et à s'élever, notamment dans l'esprit de domination, pour s'élever, on s'élève au-dessus de l'autre. Il peut y avoir des formes comme ça d'autorité, de mainmise sur les autres. Mais ici, c'est important de distinguer. Il y a des personnes qui sont naturellement... je dirais, marqué d'un certain autoritarisme, peut-être lié à l'éducation, qui n'ont pas nécessairement, voyez, un grand orgueil spirituel, pas nécessairement dans un esprit de domination particulièrement, je dirais, important, mais qui ont une manière qui peut être liée à des blessures particulières. Vous dire un petit mot.
Oui, je crois que en ce qui concerne l'esprit de domination, souvent ce sont des personnes qui ont de grandes fragilités, qui se protègent de ces fragilités, de ce qu'elles ressentent, de leurs souffrances, en dominant l'autre. Enfin, souvent c'est un mécanisme de défense. Tout simplement parce qu'elles ont peur d'être rejetées. Maintenant, je ferai une différence entre le fait de dominer de manière inconsciente, parce que ça vient en fait souvent d'une blessure de l'enfance, et puis le fait de vouloir dominer d'une manière plus consciente et d'avoir un certain plaisir à le faire. Voilà, là il y a une distinction à faire.
La conscience est plus subtile.
Plus subtile, oui.
Celui qui domine n'est pas toujours celui qu'on pense. Des personnes qui peuvent arriver à dominer tout en se présentant comme victime. Confirmé, je veux dire. Donc, c'est ici où les choses deviennent subtiles. On ne peut pas porter de gros jugements, on ne peut pas porter de jugement sur les apparences à ce niveau-là. Hein, si on considère ce que je viens de dire par rapport à cet esprit de domination, il est au niveau du cœur. Il se traduit nécessairement au niveau psychique, mais le psychisme, il est lié aussi, comme l'a souligné Josiane, qui est thérapeute, il peut être lié donc à des blessures particulières. En fait, le véritable esprit de domination, on peut le voir que si Dieu lui-même nous éclaire, au fur et à mesure qu'il nous fait faire un chemin dans lequel nous descendons en nous-mêmes pour que nous puissions voir cette racine du péché. Philippe avait une belle image, il disait que à force de labourer la terre de notre cœur, la racine du péché, elle finit par apparaître. Tu confirmes, Philippe? Ce que tu as dit.
Je sais pas, j'ai déjà dit ça, moi.
Ouais, t'as dit des choses belles. Bon,
je suis surpris. Oui, c'est vrai qu'à l'inverse, on s'aperçoit qu'on peut très bien essayer de tirer sur,
sur un certain nombre de mauvaises herbes, mais on sait quand on fait un peu de jardinage, surtout dans les endroits où ça pousse facilement, qu'en fait, avant d'avoir enlevé la racine, les vraies racines, c'est quelquefois très très difficile et que. Voilà, je ne sais pas si c'était ce à quoi tu faisais allusion, mais. Ouais, et puis ce que je dis souvent aussi, c'est qu'on a besoin d'accueillir les choses, on attend souvent de recevoir les choses comme une espèce de grosse douche et de grosse révélation. Moi, je dis souvent aussi que je reçois les choses plutôt comme une. Dans ma vie, et ça, c'est mon expérience à moi, c'est que je reçois les choses plutôt comme une bruine. Qui petit à petit imprègne et qui entretient et qui. Oui, bon, mais ça c'est mon expérience à moi, je ne sais pas si.
L'esprit de domination est une chose, l'esprit de possession en est une autre. En même temps que l'homme cherche à dominer dans une forme d'exaltation de lui-même, en réalité, il se prive de la seule vraie force et vraie sécurité qui est dans l'union à Dieu. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet, donc il ne repose en toi. Ça reste toujours vrai. Et donc, en réalité, il n'y a pas d'homme fort. Il n'y a que des hommes faibles et insécurisés sur cette terre. Et du fait que nous sommes faibles et insécurisés au fond de nous-mêmes, ben forcément, on recherche une force et un appui en l'autre. Dans la mesure où je cherche une force et un appui en l'autre, un appui que je devrais chercher d'abord en Dieu, je vais tenter de m'approprier l'autre. Parce que j'ai peur de le perdre. Parce que je sens que j'ai besoin d'un appui, d'une force pour continuer ma vie. Je ne vais pas y arriver tout seul. Et donc je vais m'attacher à l'autre pour combler un manque. Et comme l'homme et la femme se complètent de manière évidente, naturelle, c'est évident que l'esprit de possession entre la femme et l'homme va contaminer cette relation. Là aussi, l'amour rate sa cible. Parce que, de fait, quand je suis vraiment uni à l'autre, cette union est source de force. L'union fait la force. Mais en cherchant à posséder l'autre pour mieux m'appuyer sur lui, pour me sécuriser, ben je passe à côté de l'union. Que ce n'est pas l'autre que je recherche, mais l'appui. Et donc, en voulant posséder, en réalité, je passe à côté de cette union qui seule pourrait me donner une vraie force vitale. Saint Paul dit que la cupidité est une idolâtrie. C'est évident qu'en cherchant l'appui en l'humain plutôt qu'en Dieu, je commets un péché d'idolâtrie. C'est toute la question de l'attachement à la créature, comme on disait avant, plutôt que de s'attacher au Créateur, on s'attache d'abord à la créature. Mais à ce moment-là, notre cœur, il étouffe. Au lieu de se dilater, il se referme dans cet esprit de possession. On se retrouve dépendant, aliéné. Et évidemment, de là découlent toutes sortes de passions et et de déviation au niveau de la vie psychique, au niveau de la vie affective. C'est là qu'on peut tomber dans des jalousies et des formes de où finalement on ne voit l'autre que relativement à soi et donc on l'empêche d'être lui-même.
Toujours le risque effectivement de, parce que je crois que c'est l'être humain a tellement besoin d'amour que il est prêt à beaucoup pour cela et quelquefois à se nier lui-même sans en avoir trop conscience. Je crois que c'est aussi important de parler du fait que on a été un petit enfant à un moment donné et qu'on s'est peut-être trouvé mal aimé et que cela laisse des traces dans notre vie d'adulte. Et c'est important quelquefois de se dire que ben, effectivement on a des comportements qui viennent plutôt d'un mécanisme de défense ou de protection et que l'on peut peut-être travailler sur ces comportements pour essayer de vivre un petit peu les choses autrement. Et il est vrai que ben, très souvent le fait d'avoir été mal aimé ou pas assez aimé ou trop aimé nous emmène à avoir des comportements pas ajustés dans nos relations. Et il s'agit à d'essayer de mettre cela en lumière, pas à pas, en étant, je dirais, très respectueux de ses propres fragilités.
Hein. Voilà. Oui, en fait, ce que dit Josiane me met en évidence, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu assez de sécurité affective étant tout petit, et qui aussi recherchent désespérément cette sécurité qu'ils n'ont pas eue à la base. Ça rejoint ce que j'ai dit, mais toujours avec ce problème de fond, c'est que de toute façon, c'est pas en l'autre d'abord que je peux me sécuriser vraiment, mais c'est seulement dans la relation à mon Créateur. Et donc cette recherche désespérée d'une sécurité de base dans la relation à l'autre, je dirais à la base, elle n'est pas juste. Il y a des personnes qui restent enfermées dans ces amours possessifs. Benoît XVI a dit une fois que l'amour possessif pouvait être une idole, mais c'est évident que l'amour possessif peut prendre la place de l'amour véritable dans notre cœur et on se complaît dans ces formes de relations qui conduisent forcément à des formes d'impureté, notamment au niveau sexuel, du fait qu'on ne peut pas respecter jusqu'au bout l'autre. À partir du moment où on est à l'intérieur de cet esprit de possession foncièrement égoïste. Oui, il y a des personnes qui ont de grandes blessures, notamment au niveau sexuel, qu'ils ne savent pas bien vivre avec leur corps, mais qui ne sont pas nécessairement d'une grande impureté. Je pense à Marie-Madeleine, je pense à d'autres personnes prostituées que j'ai pu connaître quand j'étais au centre d'accueil pour les gens atteints du sida. Il y a des personnes qui gardent une réelle pureté de cœur, mais qui ont toutes sortes d'impuretés au niveau psychique et physique. Et inversement, il y a des personnes qui ont vraiment un esprit de possession terrible, mais qui se cachent derrière des apparences honnêtes. Comment conclure ? Bien, c'est qu'on est mal parti. On est mal parti. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sauveur. ce soir, la conclusion, c'est que nous avons besoin d'être sauvés. Et qu'on ne peut pas se contenter de quelques analyses psychologiques ou que de ravaler la façade. Si nous sommes, je dirais, un peu dans la recherche de vérité, nous prenons conscience que c'est le cœur de l'homme qui est malade. Et c'est ce cœur qui a besoin d'être purifié. Et de même que seul l'amour divin peut vraiment toucher mon cœur en profondeur, et bien de même, seul l'amour divin peut purifier mon cœur en profondeur. Ici, je vous cite saint Paul, qui, je trouve, peut nous remettre dans l'espérance. Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, centrés sur eux-mêmes, mais pour lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Autrement dit, Jésus est mort pour que nous puissions mourir à notre égocentrisme. Et donc, à la question « Qui me libérera de moi-même ?», nous pouvons répondre « Jésus ». Et pour que Jésus puisse nous libérer effectivement de nous-mêmes, il y a un chemin, évidemment un long chemin, passe par la mise à jour des racines du mal, que nous allons donc essayer d'explorer pendant ce trimestre, qui nous achemine vers Pâques.